Il y en a qui traînent au bar encore là. Deux, trois bières.
Il y a encore trois bières ou quatre.
Ils peuvent amener leur bière. Hein. Allez. La séance est ouverte. Amenez-vous avec vos verres. Si vous avez des verres. C'est pas interdit. Bien, eh bien, bienvenue à tout le monde. Merci d'avoir fait le déplacement. Très à l'heure pour certains, bravo. Et donc, bienvenue dans l'association In Vivo, dont le titre est In Vivo au sein du vivant, pour le coup. Là, on va être pile poil dans les statuts de l'association, qui ne fait pas que ça, pour ceux qui ne la connaissent pas, puisqu'on intervient sur des sujets assez variés, des sujets historiques. Récemment, on a fait une histoire de la Palestine. On a des sujets sociétaux. On a fait des interventions sur le droit à mourir. On a fait des interventions un peu plus culturelles, puisque la dernière conférence, vous avez l'affiche encore qui est là, c'était sur l'histoire d'un saxophoniste très connu dans le monde du jazz, pour ceux qui aiment le jazz, c'est John Coltrane. Et aujourd'hui, les Nuits de la Chouette, avec Mayenne Nature Environnement et avec la présence de M. Duchesne, Benoît Duchesne. Voilà. Et c'est la deuxième fois qu'on demande à MME de venir. On avait fait une première intervention sur les chauves-souris. C'était très sympa, mais celle-ci va l'être tout autant. Donc le programme, c'est une présentation. Ensuite, Benoît, il a un appareil pour attirer les chouettes, mais elles ne vont pas venir là, parce que bon, non. Mais elles peuvent peut-être que quand même... donc ce sera une petite promenade autour de l'église, ou dans ce coin, dans le bourg en tout cas. Donc ça va nous amener vers 8h30. Et on revient ici. Hier, nous avons préparé un repas. On prendra ensemble, viendrez me voir pour le règlement. Bah voilà, je crois que c'est tout, on va te laisser la parole. J'ajouterais juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe In Vivo est un peu triste parce qu'il nous manque un pilier qui s'appelle Tayeb Badis, avec son épouse, parce que Tayeb a eu un AVC. On va dire un AVC pas trop grave, je ne sais pas si c'est la bonne formule. Enfin, ça attaque une partie de son cerveau qui fait qu'il n'a pas de problème de langage ou autre. Ça, par contre, il a des problèmes d'équilibre pour l'instant, et qui, paraît-il, peuvent se réparer. Voilà, il n'est pas là ce soir, donc ça, parce que d'habitude, ça fait partie du décor pour nous, les niveaux, et on est un peu tristounés, mais bon, comme on a de bonnes nouvelles, ça va. Voilà, je laisse.
Et puis c'était eux qui avaient...
oui, c'est eux qui avaient initié tout ça.
Cette soirée, et qui l'avaient préparée, et bon, heureusement, ils ont eu leur nuit de la chouette avant l'heure...
Ouais. Bah oui, vous l'aviez fait ensemble. Voilà, ben, toi, Benoît.
Bon, bonsoir, merci de votre présence. Donc, on est un petit peu des habitués de cette, moi y compris, de cette nuit de la chouette, hein, qui est une opération qui a été labellisée, qui a été créée par la LPO et les parcs naturels régionaux. Logiquement, il y a tous les deux ans, les nuits. Donc cette année, c'est une nuit de la chouette, je vous ai dit, c'est tous les deux ans pour la LPO. À MNO, on a l'habitude, et dans beaucoup d'associations, d'en faire un peu tous les ans. Voilà, et c'est toujours au mois de mars, on va voir pourquoi. Voilà. Alors, on est parti donc pour cette partie de présentation. Voilà, donc on va parler un petit peu des chouettes, on va parler de celles qu'on peut voir, on va essayer d'apprendre à reconnaître leur chant tout à l'heure. Voilà. Juste pour dire que c'est un animal qui a toujours impressionné les hommes, et impressionné alors dans plusieurs sens, hein, mais le mot strix, qui est le nom scientifique qui a été donné au genre des chouettes, donc signifiait, vient du grec, hein, et signifiait vampire ou sorcière. Donc vous voyez déjà que c'était ça, c'est un petit peu resté en France notamment, hein. Voilà, mais il y a eu d'autres représentations des chouettes dans le monde. En Grèce antique, la chouette chevêche notamment, la petite chevêche qui est bien présente à Saint-Pierre-sur-Ève, et était donc symbole de la sagesse. Voilà. Et c'était l'attribut de la déesse Athéna, donc il y avait des pièces de monnaie avec un côté la déesse, de l'autre côté la chouette. Voilà. Et puis on verra que le passage aussi, que ce sont des animaux nocturnes, le passage entre le vivant et les vivants et les morts, ça fait partie aussi, je crois, de ce qui est impressionnant chez ces animaux-là, avant qu'ils soient bien connus. Aujourd'hui, c'est quand même des oiseaux très bien connus. Voilà. Alors, comment on reconnaît un rapace nocturne? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord un rapace. Hein, donc, qui dit rapace, ça veut dire un prédateur, doté d'outils pour la prédation, donc notamment des cerfs. Hein, donc, ce sont des ongles très pointus qui lui permettent de capturer les petites proies qu'il va attraper. Et puis, on pourrait citer le bec crochu, là, même si ce n'est pas dans l'ordre, hein, le bec crochu qui va lui permettre aussi de tuer ses proies. Un disque facial, alors ça c'est vraiment propre aux rapaces nocturnes, on va le revoir tout à l'heure. Une super ouïe, c'est lié un peu au disque facial, on va le voir. Et puis un plumage qui lui permet d'un vol très souple et puis surtout un vol très silencieux. Et c'est une particularité des chouettes, hein, des hiboux, des rapaces nocturnes, parce que les oiseaux, en fait, quand on écoute bien, s'il y a le silence, on entend le bruit des ailes, en général. Sauf chez les chouettes, qui sont équipées d'un système technologique majeur. Donc, les plumes sont équipées de barbules qui rendent absent le frottement avec l'air, et du coup, il n'y a pas de bruit. Voilà. Donc, on n'entend jamais une chouette. On n'entend jamais une chouette arriver.
Sur notre affiche,
on les voit bien. C'est une super chouette. Ouais, elle est super, cette affiche. Voilà.
C'est Julia, hein. On peut l'applaudir. Ouais,
Julia. Julia.
Bravo, Julia.
C'était repris par les éoliennes.
Pour éviter le bruit.
Pour limiter le bruit.
Pour éviter.
Oui, parce que là, c'est plus dur.
Limiter le bruit. Équipé des pales d'éoliennes, de sorte de rémige comme ça, ça fait moins de bruit au vent.
Alors j'ai oublié de le dire, mais le plus simple, c'est si vous avez une question au fur et à mesure ou une remarque, n'hésitez pas, faites comme Berlin. Vous pouvez. Non, mais si, c'est très bien. Donc du coup, c'est ça plus dynamique. Voilà. Donc pas de bruit. Donc oui, si vous entendez donc la nuit un bruit d'aile, c'est pas une chouette. C'est clair.
C'est un aigle.
Ou un pigeon en général. Voilà. Alors le disque facial, c'est qui renvoie les sons vers la cavité auditive. Alors le disque facial, c'est une vraie parabole. Donc ces oiseaux, je vous l'ai dit, sont des engins d'une technologie très évoluée. Donc on le voit pas là, mais si on enlevait les plumes, on verrait vraiment une espèce de parabole avec au fond les yeux et les oreilles que vous ne voyez pas, mais qui sont cachés sous les plumes, là, dans le creux de la parabole. Donc, de chaque côté, il y a un énorme trou de chaque côté, qui est le conduit auditif. Et du coup, effectivement, cette face qui est très grande permet de capter les sons. Et ce sont des oiseaux qui ont une audition phénoménale par rapport à nous. Voilà. Alors, dans les rapaces nocturnes, il y a les chouettes et les hiboux. Donc, les hiboux se reconnaissent parce qu'ils ont des oreilles. Eh ben, justement, non, puisque les oreilles, on a vu que c'était des trous. Et là, voilà, ce sont des aigrettes, mais en forme d'oreille pour piéger tout le monde. Donc, d'ailleurs, dans beaucoup de langues, le hibou, on dit qu'il y a le mot oreille dans le nom du hibou. Mais effectivement, ce sont des plumes simplement qui sont dressées au-dessus, alors plus ou moins grandes, mais voilà. Donc les hiboux ont des aigrettes, les chouettes n'en ont pas. Ces yeux, on a vu qu'ils étaient au creux du disque facial, donc ils ne bougent pas, c'est des yeux fixes, contrairement à nous. Donc qu'est-ce que va être obligé de faire cette chouette?
Elle
va être obligée de tourner la tête pour regarder sur le côté et partout. le bec crochu, on l'a dit, la tête volumineuse, voilà, ils ont une grosse tête, hein, comme d'autres, mais pour d'autres raisons, voilà, et une très grande sensibilité à la lumière des yeux aussi, donc une capacité aussi à voir la nuit, même si ces oiseaux ne chassent pas à vue, mais chassent à l'ouïe, hein, ils repèrent toute leur proie à l'ouïe et ils se déplacent. Et voilà donc l'exemple dont on parlait, et voilà une chouette qui veut regarder derrière, et ben, elle ne se tourne pas, elle tourne la tête par contre, et puisqu'elles sont capables de tourner la tête à jusqu'à 270 degrés, je ne vous conseille pas d'essayer, voilà, donc une mobilité extraordinaire, mais ce qui fait que des fois, si on a la chance de voir une chouette posée, on peut ne pas savoir si elle est de dos ou de face, parce que si elle a tourné la tête de l'autre côté, ben, là par exemple elle est de dos, mais elle nous regarde droit devant. Voilà, et puis donc un plumage qui est toujours assez mimétique, qui leur permet de se camoufler parce qu'elles vont avoir besoin de dormir le jour. Donc, dans un arbre, un hibou ou une chouette hulotte, c'est quand même pas facile à voir et on n'en voit pas souvent de jour pour ces raisons-là. Alors, pour manger, vous voyez que cette petite chouette a choisi de se poser sur un poteau, c'est par hasard, c'est-à-dire que les chouettes peuvent. Se servent des poteaux comme d'affût, voilà, elles vont chercher une place pour se poser et chasser à l'affût, donc elles vont attendre que autour ça bouge et fondre sur leur proie du poteau. Et puis la deuxième technique, c'est tout simplement de voler à basse altitude, à 1 mètre ou 2 du sol, et puis d'attendre de repérer. Alors le repérer, donc je vous répète, c'est entendre un petit micro-mammifère qui est un petit campagnol, une petite souris qui va être parrain, et puis de tomber dessus. Donc les chouettes ou hiboux qui utilisent cette technique font de grands parcours, c'est le cas de l'effraie des cochers, là, qui va faire de grands parcours de 2-3 km, souvent les mêmes d'un soir à l'autre, et voilà, le long de ces parcours, elle va essayer de capturer des chouettes. Ça a un inconvénient pour elle. Ce qu'ils volent à basse altitude, c'est quand le parcours traverse une route, on est à hauteur des voitures. Alors l'essentiel du menu hein, pour les chouettes, je ne sais pas pour nous ce soir, mais pour les chouettes, ce sont des petits mammifères, des micro-mammifères, souvent des petits rongeurs, enfin bon, campagnols, mulots, musaraignes, etc. Voilà, bon, ça peut aussi être des petits oiseaux à l'occasion, et pour une espèce comme la chevêche, il y a beaucoup d'insectes dans le régime alimentaire. Alors, c'est une petite espèce qui en été se nourrit de beaucoup d'insectes, voire de vers de terre aussi. Et on avale sa proie d'un seul coup, hein, toujours entière, donc voilà, dans le sens du poil, nous dit-on sur cette diapositive. Et donc, un rapace nocturne peut consommer jusqu'à 60 000 proies dans sa vie. Voilà, c'est quand même. Voilà, ça remplace très utilement un chat chez soi. Hein. Ouais, c'est pour ça que je voulais. Donc, au cas où. Si vous avez quelque chose contre les chats, vous pouvez avoir le chat et la chouette, ou l'un ou l'autre. Voilà.
S'il vous plaît, il peut s'attaquer aux chauves-souris, quoi.
Oui. Oui, on a les chauves-souris sont font partie de la consommation assez régulière. Ouais. Pour la hulotte notamment en capture, ouais, les frais aussi, je crois.
Mais les apacovoles, vous posez?
Ah bah alors ça, je sais pas. D'accord. Honnêtement, je sais pas. Mais je pense que les captures en vol, ouais.
Ah oui.
Mmh.
D'accord.
Mais oui, ça arrive, ouais. On en retrouve puisque. Alors, on sait relativement bien ce que mangent les chouettes, ça c'est vraiment très étudié, puisque ces chouettes qui ont ingéré leur proie d'un seul coup vont la digérer en entier, ou presque, parce qu'il va quand même rester des parties difficiles un peu à avaler, à digérer, donc les poils et les os, ou certains os, qui vont être pelotée dans le ventre, je sais pas, j'ai pas le mot. La chouette va constituer une pelote qu'elle va rejeter par le bec. Donc on appelle ça une pelote de rejection. Ce n'est pas une crotte. Voilà. Par contre, avec voilà, les parties molles qui sont digérées vont être évacuées par des fientes. Et puis, on a donc ces pelotes de rejection. Voilà, qui, si on prend le temps de les disséquer, on va avoir voilà, le contenu d'une pelote, par exemple. On peut avoir dans une pelote entre quelques proies jusqu'à 14, 15 proies si on s'amuse à les disséquer. Et donc, on sait relativement bien ce qu'elles mangent, puisque voilà, avec un petit peu d'expérience, on a des spécialistes qui vont déterminer les crânes. Une grosse majorité, ouais, alors ça dépend des espèces, mais ouais. Le hibou moyen duc, c'est pratiquement que du campagnol. C'est du 95%. Voilà, et on a d'autres espèces, puis ça dépend un peu où elles vivent, hein, où elles sont installées.
Et la sauvage que tu dis, c'est aussi.
Alors, beaucoup, je disais, il y a beaucoup d'insectes, il y a un petit peu de micromammes, mais il y a aussi vraiment une très grosse part d'insectes, un peu de vers de terre, et puis elle est très opportuniste, ça peut être du lézard, du. Voilà, mais à la bonne période, quelquefois un petit oiseau.
Et le campagnol, c'est grand comme quoi?
Les campagnols, je crois, alors là, je sais pas la taille, moi, mais allez, si je vous dis ça, ça coûte pas ça, quoi. Voilà. Oui, c'est les mêmes tailles, ouais. On est dans la même taille, mulot. Campagnol, musaraigne. Alors, les musaraignes sont des insectivores, donc elles ont des dents pointues. Et donc on retrouve régulièrement, quand on fait des analyses de pelote, de la chauve-souris, les crânes de chauve-souris. Des amphibiens, ça peut arriver aussi. Les banines, la taupe, le crocodile. Il y a des petits crocodiles. Voilà, donc. Et là, donc on est à la période de reproduction, on fait la nuit de la chouette parce que on est au mois de mars, c'est la période la plus favorable pour les entendre chanter, parce que on est au début de début où la saison de reproduction est entamée suivant les espèces. Voilà. Donc les mâles chantent pour attirer une femelle à cette période et pour défendre un territoire. Voilà. Alors on a des oiseaux qui sont plutôt du type squatter, hein, c'est-à-dire qu'elles nichent dans des cavités. Pour les chouettes, et on a chez nous le hibou moyen duc qui ne construit pas de nid non plus, mais il va le piquer aux corneilles en général, et donc il va s'installer dans un nid plutôt de préférence, alors que les chouettes vont choisir des cavités. La hulotte plutôt dans un arbre, la chevêche et les fraises sont plutôt dans les bâtiments de nos jours, enfin, voilà, ce qui n'a pas toujours été vrai sans doute, mais là elles sont très très souvent dans les bâtiments agricoles. Voilà, on a des œufs de couleur blanche parce que dans le noir, il n'y a pas besoin de les camoufler. Hein. Enfin, dans la cavité, il n'y a pas besoin de camoufler les œufs. Donc, on n'a pas de couleur. On a des jeunes plutôt. Alors, le nombre de jeunes va varier suivant les espèces et suivant la disponibilité alimentaire. C'est-à-dire que vous savez que les petits rongeurs ont des pullulations certaines années. Donc, les années où il y a beaucoup de petits rongeurs, les chouettes vont faire beaucoup de petits. Et puis les années où il n'y en a pas beaucoup, ben, ils vont en faire très peu. Voilà. Donc c'est un peu variable, mais voilà, on vous dit 2 à 8. Là. Et les jeunes, eh ben, ils vont pousser assez vite. Hein, en 30 jours, voilà, faut 30 jours de couvaison. En 30 jours, ils commencent à être déjà un peu plumés. Et puis ça dépend des espèces, mais entre 30 jours et entre un mois et deux mois, ils vont être volants. Et quitter le nid. Et souvent, ils sont obligés de le quitter avant parce que les cavités sont trop petites. Donc, on va trouver des oiseaux qui se promènent et qu'il ne faut pas ramasser parce qu'ils ne sont pas abandonnés, c'est simplement qu'ils sont tombés des nids. On va les remettre en hauteur de préférence. Voilà, voilà, alors on va commencer l'apprentissage. Alors, si vous voulez, vous pouvez essayer d'imiter les chouettes. Bon, tout à l'heure, c'est vous qui, au lieu d'utiliser le métaphone, vous les ferez venir.
Je suis pas sûr que ça marche aussi.
Si vous y arrivez, c'est pas mal, mais c'est possible, il y en a qui le font. Voilà, donc une première chouette, hein, ou hibou, je sais pas, qu'on va pouvoir entendre chez nous.
Chevalier.
Ça continue, hein, c'est la même là. Ça, alors ça c'est des cris. Vous remarquerez que c'est quelqu'un d'assez peu aimable, assez peu avenant quand on. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Ah ouais, agressif. Pas content là.
Ouais, pas content. Alors, ça va avec le regard. Ouais, c'est la chevêche. Parce que la chevêche, elle vous regarde avec ses yeux jaunes, là, brillants. Et puis en même temps, si elle n'est pas contente, voilà. Et si le chat passe dans la cour, elle peut faire ça aussi. Hein. Ouais, elle écrit, ouais, elle alarme après le chat. Alors ça, par contre, là, ce qu'on commence à entendre maintenant, c'est le chant. C'est le vrai chant, c'est-à-dire le mâle, pour défendre son territoire, c'est ça qui va... C'est comme ça qu'il va chanter, là. C'est un peu un miaulement. Et la deuxième forme de chant, c'est le pou, qui ressemble un peu plus à ou. Alors, il y a de la chevêche à Saint-Pierre. L'autre fois, on n'en a pas eu dans le bourg. Il y avait Jocelyne, on n'en a pas eu du bourg. Par contre, juste à la sortie du bourg, il y en avait. Pas manqué. Voilà. Allez, donc vous l'avez bien retenu. Les gars, pour l'examen de fin, il y a l'examen à la fin. Donc là voilà la petite chevêche avec ses yeux jaunes. Voilà, un petit oiseau, hein, parce que c'est. Oui, c'est gros comme un bon point, mais pas beaucoup plus gros que le point. Hein, voilà. Donc on nous dit que ça peut vivre jusqu'à 10 ans, c'est déjà pas mal.
Voilà.
Et on a une population qui a été révisée, qui a 100 000 couples en France, c'est pas énorme. C'est plutôt un oiseau d'origine méditerranéenne, mais qui a conquis nos paysages lorsqu'il y a eu le défrichement au Moyen-Âge, voilà, et qui a envahi. Et dans chaque région, elle occupe des milieux un peu différents, suivant l'activité humaine.
Mais ce sont des oiseaux qui ne sont pas chassés.
Non, ils sont protégés.
Oui, aujourd'hui, protégés. Au-delà d'être protégés, ils ne sont pas chassés. Ça ne fait pas partie des activités humaines.
Non. Alors on verra que l'activité humaine l'impacte beaucoup, hein, elle est très dépendante, puisqu'en plus elle a lié son sort en venant occuper les bâtiments, elle a lié son sort à l'homme, enfin pour la chevêche notamment. Hein. En Mayenne, je vais avancer sur quelques diapos d'après, mais en Mayenne, la chouette, on l'appelait d'ailleurs dans le temps, souvent on l'appelait la chouette des pommiers. En fait, la chevêche, au début du siècle dernier, Elle devait être uniquement dans les pommiers. Donc il y avait un verger de pommes à cidre dans chaque ferme. Et les pommiers, il y avait des branches qui cassaient facilement, ça faisait une petite cavité. Et souvent, elle était là-dedans. Et puis, les vergers de pommes à cidre ont quand même disparu depuis maintenant un petit paquet d'années. Il y en a encore quelques-uns, mais très peu. Et tous ces vergers ayant disparu, on pense, c'est une hypothèse, parce qu'on n'en sait rien, mais que les chevêches sont passées dans les bâtiments, tout simplement. Mmh. En tous les cas, dans d'autres régions de France, elle peut nicher dans tout à fait autre chose. Mais chez nous, c'est pour ça qu'on le voit. Donc elle va nicher très souvent, en général, c'est au pignon du bâtiment. Vous avez les pannes de bois qui sortent un petit peu. Juste au-dessus des pannes, il y a souvent une pierre décellée. Toc, et c'est là. C'est 7 cm un trou de chevêche. Mmh. Si on fabrique un nichoir pour la chevêche, le trou d'entrée, c'est 7 cm. Donc une pierre décellée suffit, et puis elle va nicher dans l'épaisseur du mur, et il n'y a pas de salissure, il n'y a pas de dégâts dans la maison, enfin voilà, on ne sait pas qu'elle est là, souvent, enfin, sauf quand elle houspille le chat au passage, hein, voilà. Et voilà, donc du coup, chez nous, elle est vraiment 90-95% c'est dans les bâtiments aujourd'hui. Donc à chaque fois qu'on restaure, et Laurent, votre boulanger... m'a dit qu'il y avait un couple de chevêches qui s'était installé juste en face, là, à la maison, la toiture a été refaite, là. Mm-hmm. Si vous connaissez, pour ceux qui sont à Saint-Pierre, là, la cavité a été fermée. Il n'y a pas grand-chose, d'ailleurs, j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose, et donc, voilà, il n'y a plus de chevêches dans cette maison. Ah, et il suffirait de laisser le petit espace, c'est pas trop... Esthétiquement, même, ça voilà. Je ne sais pas qui habite en face. Bon, pour enlever le petit bout d'ardoise là, qui gêne. Enfin, je ne sais pas où était le trou, il faudrait demander à Laurent. Parce qu'il faut enlever la bonne ardoise. Mais c'est dommage, parce que ce soir, on aura eu une chevêche à domicile. Voilà, la dame blanche. Alors, elle est chouinte. On peut appeler ça un chant si vous voulez, mais moi je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. Alors, à chant, vous allez voir, c'est pire que ça. Si vous avez ça dans votre maison ou dans votre cheminée, même les bouchons d'oreilles, ça suffit pas. En général, c'est assez difficile la cohabitation est difficile. Je vous laisse jusqu'au bout. Alors, c'est pas tout à fait. Ça, c'est pas des cris qu'on entend souvent. C'est vraiment là où on nie. Et les jeunes soufflent comme ça aussi, là. Ouais, vous entendez ça ici?
Non, attendez. Hein? Près de l'église, à Torigny-en-Charny.
À Torigny-en-Charny, d'accord. Ah, donc peut-être à l'église.
Oui. Ouais.
Voilà. Bon, alors, ceci dit, quand on est sur le terrain et qu'on veut entendre une chouette effraie, souvent elle fait ça, elle chante assez rarement, donc c'est-à-dire, quand elle chante, elle va se poser et puis elle va chanter comme ça à suivre, mais c'est assez rare. En général, on l'entend quand elle passe en vol et elle nous fait un petit cri de temps en temps. Et ce qui fait que quand on est en groupe, comme ça, entendre une effraie, voilà, elle est passée trop tard, on l'a pas entendue. Souvent, c'est assez difficile à entendre. Allez, effraie, notre Dame Blanche, alors qui est une des plus faciles à voir aussi posée sur un poteau au bord de route, hein, c'est encore assez fréquent. Mais c'est une espèce qui paye un très lourd tribut à la route. Voilà. On est sur la taille au-dessus, hein, par rapport à la chevêche, une trentaine de centimètres. Alors après, on va voir que la hulotte et le hibou moyen duc, les deux autres espèces, sont de la même taille à peu près. Et vous voyez qu'il y a moins d'effraies que de chevêches. Alors il faut dire que c'est un territoire beaucoup plus grand, une effraie, qu'une chevêche. Les chevêches, ça supporte un tout petit territoire. Puis ça aime bien vivre c'est un animal assez sociable. Et elle vit souvent en noyau, c'est-à-dire quand il y a une chevêche, souvent il y en a 2, 3, 4, 5 autour, pas très loin, sur les fermes voisines. Et les fraies, par contre, elles défraient un territoire et elle a un grand territoire. Voilà. Avec des grands circuits. Quand elle fait un circuit de chasse, les fraies qui ont été équipées avec des balises, là, c'est 3, 4 km, voilà, donc elle parcourt du terrain. Ah, une autre? Ah, ça c'est la vraie, hein. C'est la vraie chouette là. Pas celle que. Celle qu'on met dans les films, hein. Enfin, le son qu'on met dans les films. Et donc, on va essayer, je crois qu'il y a la femelle un peu plus loin. Voilà. Là, c'est le chant du mâle, le ou, mais la femelle fait un cri qui fait. Donc, pas ça non plus. Voilà, le kirik là. Beaucoup plus aigu. Ça, c'est la femelle. Ça, c'est un mâle qui s'excite un peu. Et puis, on n'a rien entendu la femelle. On a ce type de chant. De temps en temps, elles font des petites variantes. Et là, on entend bien la femelle aussi dessus. Mais là. Mais sur le terrain, pareil, c'est peut-être moins facile. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un raté. Mais ça arrive hein, qu'on ait des chants. Et là, on doit être sur un jeune. C'est un cri qui ressemble à celui de la femelle un peu aussi.
Mais c'est la parade que la situation quand il se.
Alors, quand il y a mâle et femelle, oui. Chez les chouettes, il n'y a pas vraiment de parade, mais voilà, les oiseaux vont. Effectivement, quand le mâle chante, il va attirer la femelle. Voilà, les oiseaux vont rester ensemble après. Et,
ils sont fidèles.
Enfin, ils sont fidèles.
Oui. Hein, oui,
voilà. Mais comme ils ne vivent pas très longtemps, il y a beaucoup de mortalité, comme on l'a dit, chez les saints. Je pense qu'ils sont obligés de temps en temps de recomposer.
C'est mieux pour être fidèles. Voilà.
Les veuvages précoces.
Ouais, veuvage, oui, sans doute. Voilà. Donc une population française qui est, vous voyez que ça va être la chouette la plus abondante de loin chez nous. Alors par rapport à l'habitat, là, c'est vraiment la chouette des grands arbres. Chouette hulotte, ça veut dire qu'il y a des grands arbres dans l'environnement.
Ça peut être des chênes.
Ça peut être oui ou n'importe lesquels, mais des grands arbres. Ça peut être dans le bocage des appartements où il y a des haies avec des vieux arbres. Ça peut être en forêt, ça peut être. C'est pratiquement la seule en forêt aussi. Hein, les frais et la chevêche, la forêt, elles n'en veulent pas. Hein, donc voilà, un parc en ville, c'est pareil, ça fait l'affaire. Un parc souvent avec des très beaux arbres. Mais grosso modo, du coup, en Mayenne, on peut considérer qu'il y a des grands arbres partout. Donc c'est aussi en Mayenne la chouette la plus commune. Alors le dernier. Alors le hibou, c'est quelque chose, c'est un chant qui il fait cou. Ça c'est la femelle. C'est pas tout à fait. Enfin, c'est... Et puis, Voilà. Et puis alors là, par contre, là il y a une parade chez le hibou. Et on va entendre, parce qu'il y a une parade sonore en plus. Alors, vous diriez ce que c'est, non ?
Des coups de baie.
Ah, non, c'est. Il claque les ailes. Au-dessus de la. Ouais, on vole. La parade, ouais, c'est vraiment un super spectacle. Ouais. Et les hiboux, qui sont difficiles à détecter, par contre, en mai, quand il y a les jeunes, voilà, on va. Voilà, c'est des cris de jeunes qui appellent les adultes le soir. Donc les hiboux sortent du nid, pareil, souvent, ils s'égaillent un petit peu dans les branches, voire dans les arbres voisins. Et du coup, le soir, ils appellent les adultes avec ce cri qui est très sonore. Et si vous entendez un sifflet comme ça, un peu plaintif, le soir du mois de mai ou du mois de juin, c'est que vous avez un hibou. Là, vous cherchez un peu d'où ça vient, vous allez voir dans l'arbre, et peut-être que même deux jours, vous retrouverez le hibou qui sera toujours dans cet arbre. Ça dépend, quand ils sont tout petits, ils ne se déplacent pas beaucoup. Et puis dès qu'ils prennent un peu de la force, alors en quelques jours, ça évolue vite, ils vont se déplacer. Mais les premiers jours, ils vont rester toujours au même endroit. Donc on peut les voir. Hein. Alors, c'est reparti, je ne sais pas pourquoi, mais hop. Alors, par contre, le chant, c'est très peu sonore. Ça dépend des. Enfin, c'est très variable, mais souvent, c'est un chant qu'on n'entend pas, le hibou. Et puis, il chante quand il veut bien. Lui, il n'y a pas d'appareil pour le faire venir, hein, ça ne marche pas. Voilà. Donc vous voyez que c'est 23 à 30 000 couples en France, c'est quand même une espèce beaucoup moins abondante, c'est pareil pour la Mayenne, on en a beaucoup moins. Voilà. Mais c'est un très bel oiseau, les yeux oranges. Hein. Alors on n'a pas parlé de la couleur des yeux, mais voilà, les yeux sont noirs chez la huloque et les traits, jaune chez la chevêche et puis orange chez le hibou et la duc. C'est les quatre espèces qu'on a en Mayenne. Voilà. Il y en a une cinquième de temps en temps qui est occasionnelle. Peut-être que je ne sais pas si on a le temps, on va voir. Il y a d'autres diapos après, je vous montrerai après. Voilà. Quelques diapos, on parlait voilà, des chouettes, de leur statut. Donc les chouettes sont protégées, mais leur habitat a tendance à être un petit peu attaqué par l'homme de différentes façons. On en a parlé du bâti, on peut parler des haies et des arbres qui ont une qualité, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui disparaissent du fait de l'activité humaine. Dans l'idéal, voilà, si on a un regard vis-à-vis de la biodiversité, il y a des choses qu'on peut essayer de faire, comme on disait, laisser une ouverture dans son mur, ça peut être ça, si on sait que la chouette est là, évidemment, il faut l'avoir repérée avant. Mais ça peut être aussi poser un nichoir artificiel quand on rénove un bâti on peut poser un nichoir, etc. Et puis il y a peut-être des arbres qu'on peut essayer de maintenir debout un petit peu plus longtemps sur certaines haies, à certains endroits sans que ça nuise à l'activité on sait que ce qu'on plante aujourd'hui pourra avoir un impact demain quand même à long terme. Trafic routier, là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit vous laissez la voiture, soit vous roulez un petit peu moins vite, voilà. Ça évitera, parce que c'est vrai que la vitesse a sans doute un impact important sur la mortalité réelle, quoi. Hein. Si on va un peu moins vite, les chouettes ont des chances de nous éviter.
Surtout sur les chouettes des frênes, mais sur les moyens ducs,
moins. Hein. Ouais, moins. Bah, parce qu'il est moins abondant aussi. Ouais. La hulotte, elle est plus forestière, elle est plus, donc elle est moins près des routes. Alors pourquoi c'est plus les frais? Alors c'est les frais, la chevêche. Mais les frais, parce que donc j'expliquais sur ses parcours et avec son mode de chasse, elle est elle vole à hauteur des voitures. Et puis en deuxième lieu, les bas-côtés qui sont fauchés, c'est des lieux de chasse aujourd'hui, des lieux fauchés comme ça, où les petits mammifères sont et les campagnols sont faciles donc d'accès. Eh bien, elle va aussi beaucoup chasser en bord de route, ce qui fait que. Voilà. Et une troisième raison, qui peut expliquer, c'est-à-dire que comme on a beaucoup coupé des haies au bord de route, y compris en bord de route, les chouettes, donc elles peuvent continuer à passer. Quand il y a une haie, elles sont obligées de passer au-dessus, voilà, et du coup, d'où l'intérêt, un intérêt parmi d'autres de laisser des haies en bordure de parcelles.
Est-ce qu'il faut poser des ultrasons pour les voitures, parce que j'ai mon garagiste qui m'a conseillé de mettre des ultrasons.
Ben là, c'est...
La campagne,
oui, pour les sangliers.
On me dit du bien, on me dit du mal.
Alors moi, je suis pas spécialiste de la question, j'ai pas la réponse exacte, mais il y a un impact sur la biodiversité. Ouais, les animaux, là, c'est sûr que.
Normalement, au bout de 400 mètres, ils se sauvent.
Oui.
Nous évitent, mais ils peuvent aussi s'affoler et peut-être, je sais pas. Alors moi, je sais pas quoi faire.
Non, je pense pas qu'ils s'affolent, mais effectivement, ils vont être.
Ils
vont être agressés.
Ouais, c'est des petits trucs qu'on voit là.
Ouais. Mais si tout le monde est équipé de ça, bah il y a plus d'animaux. Sur des portions, parce qu'il y a quand même pas mal de routes. Enfin, en imaginant que ce soit un système très développé, je pense qu'il y aura un impact très fort. Voilà, s'il y a quelques voitures équipées, peut-être qu'avec un passage irrégulier de temps à autre, voilà, mais sinon, les ultrasons, là, ça va. Alors, il y a peut-être des réglages, moi je ne suis pas spécialiste du tout. Ouais.
Ce sont des chasseurs essentiellement nocturnes.
Oui, tout à fait.
Le jour, dorment.
Oui.
Ouais. Il n'y a pas de sortie.
Il n'y a pas de sortie de jour. Alors, la chauvèche. Eh bien, parce que ce sont des animaux qui sont adaptés à la vie nocturne. Voilà. S'étant adaptés à cette vie nocturne, elles occupent une niche, voilà. Elles ne sont pas en concurrence avec les autres rapaces, les rapaces d'hommes par exemple. Donc voilà, elles ont trouvé finalement leur place dans la nature en développant ce mode de vie. Mais après. Pour un petit peu plus, il faut aller leur demander. Je sais pas. Mais voilà. Donc la chevêche, elle mange beaucoup d'insectes. Et comme en été, le bitume, c'est chaud, ça attire aussi un certain nombre d'insectes. Voilà. Et elle vient beaucoup au bord de la route en été. Et donc, mois de juin, c'est pas un bon mois en bord de route. Si on regarde bien, on voit aussi on voit beaucoup de chevêches écrasées. Et elle, on sait qu'il y a eu des études, ceci dit, elle est moins sur des routes, alors là, je ne parle pas d'ultrasons, mais de bruit, le long des routes à fort passage routier, elle est moins abondante. Hein, voilà. Bon, on a parlé un petit peu des sites de nidification tout à l'heure. Il y a juste à signaler les cheminées, parce que c'est comme une niche dans des cavités, elles explorent tout ce qui ressemble à une cavité. Donc une cheminée, en l'occurrence, si elle n'est pas grillagée, eh ben, du coup, je vais explorer. Et puis il y a certaines cheminées qui se révèlent être des pièges, où elles tombent, voilà, et on a beaucoup de gens qui nous appellent, c'est quand même très régulier, qui se retrouvent face à face avec la chouette dans l'insert. Et là, la chouette était coucou et voilà. Et donc, c'est simple, hein, il suffit d'ouvrir ses fenêtres en grand, d'ouvrir son insert, et puis on la laisse tranquillement partir une fois qu'elle va avoir repris ses esprits. Voilà. En général, ça se passe comme ça.
On peut la prendre,
Alors non, je ne vous conseille pas. Puis vous risquez de la foler de toute façon, voilà. Et puis une chouette, ça peut faire très mal hein, quand même. Les cerfs, là, c'est des vrais cerfs, hein, ça traverse. Hein. Donc si elle une effraie ou une hulotte, ça, surtout la hulotte, ça va quand même essayer de vous attaquer un peu à l'œil aussi. Enfin bon, voilà. Vous évitez, vous avez juste à ouvrir la porte. La chevêche se laisse prendre, par contre. Facilement. Elle n'est pas du tout agressive. Voilà, donc. Donc c'est vrai que dans l'idée, finalement, ça fait un site de moins pour nicher, mais dans la cheminée, de toute façon, ça ne convient pas, parce que vous aurez trop de bruit. Hein. Si votre chambre est à côté de la cheminée, ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas dormir. Donc, voilà. Le braconnage, à ma connaissance, sur les rapaces nocturnes, ça n'existe plus beaucoup, ou alors c'est des formes un peu nouvelles, des gens qui veulent s'en débarrasser parce qu'il y a des salissures à l'arrière. Parce que c'est vrai que dans un bâtiment... quand elle vient régulièrement, il y a des fientes, il y a des salissures pour les frais. Voilà. Mais la chouette sur un poteau comme ça, un piège à poteau, ou cloué sur une porte de grange, c'est quand même, je pense, à peu près disparu. C'était il y a 40 ans quand même, hein, c'est pas si vieux que ça, où on trouvait encore des chouettes clouées, puisqu'il y avait une activité de sorcellerie aussi assez importante encore en Mayenne. Voilà. Puis on peut parler de l'empoisonnement par les pesticides, les produits phytosanitaires, c'est sûr. Mais là, c'est l'empoisonnement général de la biodiversité. Et comme c'est des prédateurs, on a des chouettes qui sont victimes aussi de cet empoisonnement. On peut parler de l'électrocution et de la collision avec les lignes électriques. Voilà, c'est un impact sans doute mineur. On peut rajouter les éoliennes dans le paysage maintenant, mais peut-être qu'elles passent en dessous, je ne sais pas. Mais, au niveau des chouettes, je ne connais pas le comportement par rapport aux pannes, mais les chouettes, logiquement, elles ne montent pas très très haut, donc les frais un peu plus. Les frais pourraient, elles montent souvent les frais. Mais ça reste un impact sans doute un peu mineur qui n'est pas bien évalué en tous les cas. Par contre ça, si vous avez une effraie chez vous ou dans une ferme, l'abreuvoir est un piège mortel qui marche à tous les coups. Ou la petite piscine pour les enfants au mois de juin, quand il y a des jeunes chevêches qui sortent, elles vont boire systématiquement et du coup se noient. Une seule solution, donc on installe en général, là je ne sais pas ce que c'est, mais on peut installer simplement une planche, soit on couvre la nuit et la piscine, on la couvre, ou on peut installer une planche en bois en travers, ce qui fait que la chouette va pouvoir s'accrocher à cette planche et sortir de la broie. Mais c'est vraiment un cas très fréquent aussi de mortalité. Voilà, puis le ramassage des jeunes, surtout pas, puisque... voilà, ça va être très compliqué de les nourrir après, alors que les parents, ils font ça très bien, et qu'ils sont pas loin. Par contre, les remettre en hauteur, ça, c'est une bonne idée. Voilà. On peut les toucher, c'est pas des mammifères, il n'y a pas de souci. Et les jeunes, c'est moins dangereux que des adultes.
Il faut mettre des gants pour les prendre.
C'est mieux, de toute façon, voilà, ça reste la faune sauvage. Non, non, mais pour l'odeur, non, ça marche pas. Enfin, il n'y a pas besoin. Pour les chouettes, c'est pas, elle ne marche pas à l'odorat. Et les chouettes, quand les jeunes vont appeler, il n'y a pas de problème, les parents vont venir, même si on les a bien gardés, photographiés avant. Voilà, mais il faut éviter, voilà, pour des raisons de... Par contre, les gants, c'est utile pour nous, pour nous protéger, voilà, les parasites. Voilà, on rappellera que la nuit, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'animaux, quand même, hein, en particulier des mammifères, hein, qui sont très souvent nocturnes. Sans même parler des chauves-souris, voilà, si vous sortez le soir, si on va aux chouettes, on voit autant de chauves-souris de chouettes. Et puis il y a les amphibiens qui commencent. Alors là, je vais faire un petit. Je sais pas qui est là. Parce que je suis pas très doué, mais je crois que c'est lui. Ça doit être le pélodite ponctué. Alors parce que à Saint-Pierre-sur-Avre, ou dans le secteur, sous le plateau de Sauge, on a un petit crapaud qui n'est pas très commun. Mais qui est là, qui est bien présent et qu'on entend en général dans les prairies. Il est pas forcément au niveau des mares. Voilà, c'est un petit crapaud qui fait un petit chant, alors au mois de mars en particulier. Et c'est très intéressant parce qu'il n'est pas très commun, donc il n'est pas très noté. Donc si vous avez des observations, alors que ce soit de chouettes ou d'amphibiens ou de mammifères, on est toujours intéressé. Il y a nous, à Maïs Naturellement, on a une base de données qui s'appelle FaunMen, hein, donc ce que vous trouvez sur internet, on peut mettre ces données, voilà, on peut transmettre ça ou les envoyer simplement à MNE, ça, on est très intéressé. Et celui-là, le petit pélodite, il a un chant que je vais vous faire écouter à un moment donné, je sais pas, je l'ai pas préparé, donc je vais le faire après. Voilà, on a beaucoup d'insectes. Alors juste, je sais pas quelle heure il est,
8 heures.
Presque 8 heures. On a d'autres, je ne vais pas vous les faire écouter pour ne pas vous perturber, parce qu'après, voilà, ça risque d'être trop dur pour l'examen. Mais on a d'autres espèces de rapaces nocturnes, hein, qui sont en France. Donc on a 4 chez nous. Ah bah si, finalement. Là, c'est une petite chouette de montagne. Et on a 5 autres espèces, donc on a 9 espèces au total en France. Puis dans le monde, bien plus, mais... là, c'est la chevêchette d'Europe. C'est une petite chouette de montagne, encore plus petite que la chevêche. Alors là, c'est la taille entre le moineau et le merle. Hein. C'est vraiment une toute petite chouette très sympa, qui est très diurne. Alors, j'ai oublié quand même tout à l'heure, la chevêche, au mois de juin, comme les journées sont longues, qu'il y a les jeunes à nourrir, on la voit quand même de jour, le soir et le matin. Voilà. Et puis au septembre, elle aime bien prendre un petit bain de soleil sur la toiture ou sur le... c'est assez fréquent. Donc si on se lève pas trop tard, les chouettes, voilà. Une autre, je vous passe pas le son, c'est une autre chouette de montagne, vous voyez la répartition en France, c'est la chouette de Tegman, voilà, qui a aussi les yeux jaunes, donc ces deux-là ont les yeux jaunes. Alors lui, le géant de la famille, c'est le grand-duc d'Europe, qui est aussi un oiseau qui était lié, qui niche beaucoup en falaise, hein, qui est lié au milieu rupestre, on dit. Donc en France, la montagne. Mais sauf qu'actuellement, c'est une espèce qui se porte bien et qui colonise des nouveaux milieux. Et on l'a trouvé sur des clochers d'église, on l'a trouvé dans les carrières maintenant. Et il arrive jusqu'au bord de la mer, sur les falaises maritimes aussi. Donc vous voyez qu'il y a des petits points bleus là, qui s'échappent de la zone. Et il y a des petits points bleus qui vont vers chez nous. Il niche en Normandie actuellement. Alors, ça, il y a 30 ans, c'était inimaginable, mais aujourd'hui, c'est une espèce voilà, qui se porte bien et qui pourrait peut-être un jour arriver en Mayenne. Incroyable. Un jour, on aura un grand-duc. Voilà. Alors, c'est un gros sac de pâtes de pommes de terre. Hein, ouais. Ah oui, c'est énorme. Hein. Ouais. C'est vraiment un oiseau énorme. Alors, celui-là, il est très dangereux. Bah, vous voyez, on va faire on fait de la repasse. Hein. Quand on veut inventorier les chouettes, on fait de la repasse, les repasses torchons et tout ça. Ceux qui font de la repasse au grand-duc, ils mettent un casque. Hein. Enfin, ou si on va au grand-duc, on met un casque, on est élégant. Mais...
Oui.
Ah oui, oui, oui. Enfin, si on est trop près, si on fait mal les choses, voilà, si on passe la repasse suffisamment loin, mais si on est près du nerf, là, on peut se faire massacrer un peu. Hein. Voilà. Quand même, il faut le savoir. Mais voilà, en temps normal, pour le passant, en général, on les voit même pas. Alors, le grand-duc. Quand même, il chante et on peut l'entendre en Mayenne. On peut l'entendre en Mayenne, même s'il n'est pas présent encore, parce qu'il y en a au refuge de l'Arche. Et qu'au refuge de l'Arche, les cages sont à plein ciel, et qu'au mois de mars, il fait comme les autres. Celui qui est dans la cage, il chante. Donc autour de Château-Gontier, comme ça porte à plusieurs kilomètres, hein, on peut dire, le chant, on peut entendre du grand-duc chanter en Mayenne. Voilà. Ça peut porter à plusieurs kilomètres. Hein. Et les champs de chouettes, c'est énorme. Hein, enfin, pas la chevêche, mais la hulotte, déjà, 1 km sans problème.
Hein. On pouvait pas l'écouter
quand même. Ah, vous l'écoutez, Grand-Duc. Oui, parce que des fois que vous passiez à Château-Gontier, si vous voulez. Alors, je sais pas si c'est ça. Je sais pas si je suis revenu assez en arrière. Voilà. Pardon. Je sais pas si je vais y arriver. Ben, je sais pas ce que ça me fait.
On va attendre un peu.
Oui, mais c'est parce que... Voilà. Là, c'est un peu... Je sais pas, c'est un peu saturé, mais... En fait, c'est là. Hein. Ça passe... Ah bah oui, là, elle est éteinte. Hein. Bon, bah...
C'est le grand duc. Ouais.
C'est beaucoup plus grave encore, je crois. Enfin, je sais pas très bien. Alors, ça, c'est le cri. On n'a pas fait le chant. Plus long que le moyen duc, c'est très court. Le moyen duc. Alors que là. Voilà. Donc, oui.
Est-ce que alors lors des autres rapaces d'urnes, ils disent les ascendants par exemple suivez,
non.
C'est vraiment
non, ils n'ont pas besoin. Ils chassent, comme on l'a vu, presque au sol. La chevêche chasse au sol beaucoup. Hein. Quand elle chasse des insectes, elle court au sol. Voilà, ou sur un petit poteau à 1 mètre de hauteur, ou ils volent à 2-3 mètres. Les frais montent de temps en temps assez haut. Voilà, mais pour la hulotte, je connais même pas. La hulotte vole à la hauteur des arbres, mais elle ne dépasse pas la hauteur des arbres. Ils n'ont pas besoin. Et puis, ce n'est pas des migrateurs. Hein, voilà.
Et celui-là, il peut prendre un lapin, celui-là, si c'est plus grand.
Ah oui, d'ailleurs, il se nourrit beaucoup de lapins. Là, facilement. Des chats. Alors, ça, je sais pas si vous. Moi, j'ai jamais entendu. C'est le hibou des marais, c'est une espèce, en tant que nicheuse, elle est vraiment rare en France, hein, c'est de l'ordre d'une centaine de couples. C'est vraiment un oiseau qui, c'est un oiseau qui niche au sol, donc des marais en zone humide. Peut-être que le meilleur endroit pour les voir, c'est les marais vendéens. Voilà. Où là, il y a logiquement un petit peu de des oiseaux qui peuvent nicher. Sinon, c'est une espèce qui vient du nord, de la toundra, et qui l'hiver fait une migration. Hein. C'est des oiseaux qui descendent quand il fait un peu froid là-haut. Donc, ils viennent chez nous passer l'hiver. Et on a quelques oiseaux. Chaque année, nous, en Mayenne, on en recense 2-3. Il y a 2-3 observations quoi, par an de hibou des marais. Et puis, il y a des années tout à fait exceptionnelles. Il peut y avoir une invasion. Alors, c'est pas quand même une grosse invasion, mais on peut avoir, je sais pas, des gros. Il y a eu une année où on a eu des groupes, on a eu jusqu'à 50 oiseaux. Voilà. Enfin, bon, c'est pas... Et c'est déjà énorme par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Alors, toujours en hiver, ouais. Et puis, il y a le petit dernier, c'est le, donc après le grand et le moyen, il y a le petit duc, qui est un oiseau plutôt, lui, méditerranéen, parce que son régime alimentaire, c'est les insectes volants. Donc, l'hiver, c'est un peu plus difficile, malgré le réchauffement climatique. Donc, vous voyez sa répartition, là. Si vous allez dans le sud, c'est vraiment un oiseau qui est commun sur le pourtour méditerranéen. Il remonte, puisqu'on a un climat assez facile à Noirmoutier et à Oléron, on a du petit duc. Voilà. Et puis il commence à remonter là, sur les Deux-Sèvres. Voilà, il y a aussi des températures intéressantes. Là. Voilà. Donc ça, il est vraiment petit aussi. Et c'est un migrateur, logiquement, puisqu'il va partir en Afrique l'hiver. Mais de moins en moins souvent, il part de moins en moins. Hein. On commence à avoir des oiseaux qui sont capables d'hiverner dans le sud de la France parce qu'il y a le réchauffement climatique. Voilà. Et c'est facile. Lui, il fait un... Bon, si vous l'écoutez, si vous l'entendez, c'est assez facile à reproduire. Quand on l'a, en plus, quand on l'entend, c'est plus facile de le reproduire exactement. Et en sifflant, et il vient. Pas toujours tout près, mais il vient. Il se rapproche. Ça marche relativement bien. Bonne question. Il migre sur l'Afrique du Nord. Et je crois pas qu'il passe, je sais plus s'il passe le Sahara ou pas. Ouais.
C'est le seul qui migre.
Ouais, c'est le seul. Bah, avec le hibou des marais, qui vient d'Europe du Nord en général. Et puis celui-ci qui descend. Voilà. Petit duc Scops, voilà. Donc au plus près, je vous dis, Noirmoutier. Île Dorée. C'est très bien. Il y a une bonne population. Voilà. Et puis. Juste pour vous montrer un petit peu, il y a eu un inventaire au niveau national des rapaces nocturnes entre 2014-2019. Le principe, c'était d'inventorier chaque carré central des quartiers IGN. C'est des quartiers IGN, donc c'est des carrés de 5 km sur 5. Et là, c'est tous les carrés qui ont été inventoriés complètement dans cette période-là. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on a dans un secteur où il y a beaucoup de chouettes. Chaque point, c'est un couple ou un mâle chanteur. On appelle ça, quelquefois on n'entend que le mâle chanter, on ne sait pas s'il y a un couple, mais voilà. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a quatre couleurs pour les quatre espèces, vous voyez, ça c'est 5 espèces du lieu, mais vous voyez qu'il y a de la chouette. Hein. Si vous passez, je ne vous ai pas amené Saint-Pierre-sur-Avre, c'est moins. Saint-Pierre-sur-Avre, c'est moins. Mais Vilaine-la-Juelle, vous voyez que la densité est beaucoup moindre, et si on cherche les points verts qui sont les chevêches, là, ça devient dur.
Mais qui fait le recensement ?
Eh bien, des gens un peu comme moi, un peu.
Ils passent la nuit sous les clochers.
Voilà, c'est ça. Ça fait quelques soirées dehors. Voilà. Mais bon. C'est chouette. C'est vrai, donc c'est assez sympa. D'ailleurs, les gens qui viennent, quand on est en petit groupe, c'est en plus assez sympa. Et quand on n'est pas ce soir, dans ces cas-là, on arrive quelquefois aussi un peu à les voir. Ça arrive, c'est plus facile qu'en groupe. Voilà, et donc on a. De toute façon, la Mayenne, c'est un département où il y a quand même des belles populations de chouettes, en particulier pour la chevêche, hein, où on a. Je vais remonter après. Et plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus il y en a. Donc vous voyez que le bassin de Laval, parce qu'il y a au niveau agriculture beaucoup d'élevage, de polyculture, d'élevage et d'élevage de chevaux qui sont très favorables, qui maintiennent des prairies, qui maintiennent des haies, etc. Voilà, on a une belle densité, la plus forte densité dans tout le bassin de Laval, quoi, à peu près. Voilà. Donc, si on prend la Hulotte, voilà tous les points d'observation. Hein, et on, chez nous, on a estimé la population à 2000 couples à peu près, parce que tous les secteurs inventoriés, ça représente 10% de la surface du territoire. Donc, ça devient assez, assez significatif pour pouvoir extrapoler à l'ensemble du territoire mayennais. Donc, on arrive avec une multiplication à se donner une idée de la population mayennaise. Voilà. Le Moyen-Duc, dont, qui a toujours été... Alors, la chouette Hulotte, on est sûr qu'elle était là il y a, depuis très longtemps, hein, parce que c'est donc Jean Chouan qui a utilisé son cri. Voilà. Enfin, Chouan venant du champ de la chouette Hulotte. Hein, donc, c'est une petite histoire, mais il faut la rappeler quand même, en réalité. Et puis, les hiboux Moyen-Duc étaient cités aussi. Il y a eu, pour l'exposition de Paris... des monographies communales où on faisait tout l'inventaire du patrimoine des communes en 1899. On a retrouvé quelques traces. Il y avait des fois des secrétaires de mairie qui étaient des naturalistes un petit peu et qui notaient aussi la faune, la flore. Et on a très souvent retrouvé le hibou dedans. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà. Bon, par contre, beaucoup moins de points. Voilà. Et là, on. Du coup, ça donne une estimation à 350 couples. C'est un couple par commune. Voilà, faut le trouver à chaque fois. Bon, si vous trouvez votre couple dans votre commune, c'est bon. Mais c'est intéressant. Et puis, les frais qui nichent dans les bâtiments agricoles, on le répète, voilà. Donc, un peu moins nombreuses que la Hulotte chez nous. On estime à 1800. On parlait de la mortalité des routes. Si vous regardez la cartographie, vous regardez, il y a des alignements de points, vous voyez. Je ne sais pas si vous devinez, mais ce sont nos routes principales. À travers les données qui sont transmises, on arrive à retracer les routes tellement il y a d'oiseaux trouvés morts en bord de route. Et puis la petite chevêche, qui est la plus abondante chez nous et de loin. Contrairement, vous voyez, au niveau national, c'était la Hulotte. Hein, chez nous, c'est la chevêche. Qui est vraiment avec une densité de points. Le nord, il y a moins de points parce qu'il y en a moins, mais aussi parce qu'il y a un petit peu moins d'observateurs. Enfin bon, on a fait des recensements dans le nord quand même, mais il y a une question climatique aussi. Et il y a une question de bocage différent, notamment dans le nord-ouest, où c'est du bocage avec comme essence principale le châtaignier, où il y a moins de qualité, etc. Et on pense que ça joue. Et puis, il y a au niveau agricole une activité maïs. Maïs, production de lait qui n'est pas très favorable aussi en termes de terroir. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Je vous montre quelques photos parce que, alors comme on les voit pas, je vous montre juste quelques photos. Allez, voilà. Comme ça, notre hibou. La petite chevêche. Alors ça c'est des photos d'Éric Médard, c'est chez Éric Médard, si vous connaissez, qui est photographe animalier. Donc voilà, c'est sa famille de chevêche. Hein. Donc Éric Médard, il a une maison avec une longère, hein, avec un côté chevêche, un côté hulotte et un côté effraie. Il a aménagé des nichoirs dans les murs, quoi. Hein, ouais, c'est excellent. Alors pas tous les ans, quand même. Hein, mais... Voilà. Et puis juste quand même, donc nous on a fait une étude, on a commencé une étude, mais c'est sur l'huisserie, où on a posé des nichoirs, et on a vu que les chevêches n'aimaient pas trop, c'est des nichoirs à chevêches, je crois qu'elles sont tellement habituées à la pierre qu'elles ont du mal à aller dans le bois. Donc si elles ont toujours leur cavité en pierre, eh ben, elles restent dans leur cavité en pierre, et ça ne change rien de mettre un nichoir. Le nichoir il va être utile que si ben, on réaménage la maison, et puis du coup on ferme la cavité, et là on met un nichoir à côté, et là du coup... Elle va s'y reporter. Et voilà une petite chevêche quand même dans son nichoir. Très commode, semble-t-il, mais voilà. Et puis, Pour vous montrer quand même, parce que ça c'est une expérience aussi intéressante, on avait une personne à changer qui ne voulait plus de ses effraies dans son grenier parce que c'était très sale et tout, et puis il faisait beaucoup de bruit. Donc l'échevêche était dans un grenier tout au-dessus de la maison. Donc on lui a proposé un beau nichoir avec des planches de récup, là, où il y a un bénévole qui lui a construit ça. On l'a mis juste derrière l'accès, l'entrée, ou une meurtrière, je ne sais pas, une fenêtre. Du coup, l'effraie ne pouvait plus rentrer que dans son nichoir, donc ne salissait plus, ne faisait plus de bruit. Et puis, cette dame s'est prise au jeu, elle a acheté une caméra avec ses enfants, et elle a posé une caméra, et maintenant, elle a l'écran dans la cuisine, et tous les jours, elle regarde, c'est chouette, et elle nous envoie. Alors là, je n'ai pas la dernière photo, bien sûr, ça c'est une photo d'une autre année, je ne sais plus, 2023, donc ça fait déjà un petit moment qu'il est. Là, cette année, elle est à 8 œufs. Alors, elles ont pondu, là, et elles ont 8 œufs dans le nichoir. Voilà.
Et elles reviennent toujours dans les mêmes...
Et elles reviennent, s'il n'y a pas de dérangement, elles vont revenir dans le même nichoir. Ou même les chevêches, s'il n'y a pas de dérangement, les chevêches, ça fait 20 ans, je les connais même exactement dans les mêmes cavités. Quoi. C'est extraordinaire.
Donc,
il ne
faut pas les nettoyer, les nichoirs?
Alors, un nichoir, dans la nature, elles font comment les chevêches? Elles ne les nettoient pas, leur petite cavité là, dans l'épaisseur du mur, elles ne les nettoient pas, donc on peut choisir de ne pas intervenir du tout. Après, comme c'est du bois, qu'elles ramènent plein de pelotes, plein de micro-mâmes, elle ramène ça, et puis ça pourrit en partie sur place, hein, enfin une petite partie pourrit sur place. Donc c'est sûr que pour le nichoir, ça peut être bien, pour la durée de vie du nichoir, de le nettoyer. Voilà. C'est pas gênant de nettoyer. Voilà. Mais dans la nature, elles font pas. Et on voit les pelotes là aussi. Et il y a des pelotes qui s'accumulent au fur et à mesure de la saison. Et là, je crois qu'ils y vont une fois par an, ils vont le nettoyer une fois par an. Voilà, et puis ça c'est la petite pub pour MNE, on a fait une brochure spéciale sur l'Uraface Nocturne, voilà, si jamais vous voulez en profiter, elle est en revente au prix de 14 euros, ça doit être 14 euros derrière, je crois. Ouais. Donc, si vous aviez des questions, c'est le moment, ou si vous avez 14 euros, c'est le moment aussi, plus tard. Porter malheur. Alors, c'est le nocturne, ouais, le effraie. Il y a un rapport avec orfraie aussi dans le vieux français, je crois, et qui signifie la peur, qui fait peur. Et puis, par rapport à la mort, alors j'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais dans les villages, il n'y avait pas de lumière. Il y a 200-300 ans, la nuit, c'est pas question de la bougie, on ne les laissait pas allumer toute la nuit. Et donc, par contre, il y avait des maisons qui étaient éclairées toute la nuit. À certaines occasions, c'est quand on veillait un mort. Et donc, quand on veille un mort, à cette époque-là, on laissait la lumière. Et donc, il y avait une maison éclairée dans le village, à chaque fois qu'il y avait un mort. Et la lumière attire quand même, les chouettes, elles peuvent passer, donc elles passaient régulièrement. Et en fait, elles chuintaient à chaque fois devant cette lumière unique à l'époque. Voilà. Et il y aurait une relation entre finalement la paye des morts et puis le fait que les gens, du coup, l'entendaient à cette occasion. Sinon, je ne sais pas si vous entendez les chouettes, alors il y a sans doute, hein, mais les autres chouettes, on ne les entend pas tant que ça dans notre vie quotidienne. Donc c'est quand même des oiseaux dont on serait passé à côté de leur présence, voilà, c'est une explication, il y en a sûrement d'autres, mais le fait qu'elle soit nocturne, tout ce qui était nocturne.
C'est parti.
Alors, la proposition maintenant, c'était d'aller écouter dehors à Saint-Pierre, de faire un petit tour. On est quand même, même si le bourg ne doit pas y avoir de beaucoup de passages, je pense qu'il faut que si on marche 300 mètres, on va aller jusqu'au petit pont, peut-être, et puis on peut essayer d'écouter, voir si les chouettes chanteraient toutes seules. Hein, c'est possible à cette époque. Si elles ne chantent pas, on peut essayer de les rappeler pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, s'il ne pleut pas.
Non, je pense pas qu'il pleuve. Bravo.